Ouais, c'est normal que les gens ne sachent plus rien. Les études ne sont plus ce qu'elles étaient. De mon temps, on apprenait les départements, les préfectures, les sous-préfectures, Pas-de-Calais, Chef-lieu-Arras, etc.
Espèce d'espace, l'émission qui va vous faire aimer la géographie.
Pour cette nouvelle émission d'Espèces d'Espace, nous avons décidé de vous emmener sur la Petite Ceinture de Paris, un sujet qui nous a été beaucoup demandé.
Mais pas n'importe quel espace de la Petite Ceinture, on a décidé de se concentrer sur le tronçon du 15e arrondissement, qui est situé entre le parc André Citroën et le parc Georges Brassens.
Et ce tronçon du 15e arrondissement, Cortem, est lui-même un parc d'une forme assez étrange puisqu'il est tout en longueur, il fait environ 1,3 km de long d'ailleurs.
Mais en fait, cette forme étrange s'explique juste par le fait qu'il y ait des rails et donc un sentier désormais pour les promeneurs juste à côté.
Et ça peut sembler bizarre d'avoir des rails comme ça en plein milieu d'un parc, cela s'explique en fait par l'histoire. Ici, ce tronçon appartenait avant à une voie ferrée qui faisait tout le tour de Paris.
Donc on a un aspect patrimonial fort, un héritage historique qui est aujourd'hui valorisé selon des usages multiples.
Et à cet héritage historique s'ajoute un aspect environnemental et avec notre invité du jour, Salomé, nous allons essayer de nous demander si on peut vraiment parler ici, sur ce tronçon du 15e arrondissement, d'un véritable parc naturel.
La Petite Ceinture dans le 15e est donc un espace qui se distingue par deux caractéristiques formelles principales. C'est d'abord un espace qui n'est jamais au niveau de la voirie, il est toujours soit en dessous, soit au-dessus. Et ensuite, c'est un parc municipal qui est tout en longueur.
Et le fait que ce parc soit soit au-dessus, soit en dessous de la voirie, pose bien évidemment la question de son accessibilité. Comment est-ce qu'on accède à un parc qui n'est pas au niveau, qui n'est jamais au niveau de la voirie ? Eh bien, pour y accéder, on a mis en place soit des escaliers, mais aussi des ascenseurs et des rampes d'accès. Et cela tout le long du parc.
Malgré tous ces points d'accès, on a quand même un espace qui reste un peu caché. Si on ne le connaît pas, on ne le voit pas. Il n'est pas au niveau de la ville. C'est un espace ouvert, qui est en plus encadré par deux espaces complètement inaccessibles et fermés. On a donc vraiment cette idée d'un espace qui est soit en hauteur, soit en souterrain.
Et le fait qu'il soit soit en hauteur, soit en souterrain, que ce parc offre de multiples points de vue sur la ville et sur l'environnement urbain. Et d'ailleurs, beaucoup d'espaces sont spécialement aménagés pour que le public puisse profiter de ces multiples points de vue.
La deuxième caractéristique de ce parc est que c'est un parc qui est tout en longueur. Donc on n'est pas du tout sur un parc classique comme le parc André Citroën ou le parc Georges Brassens avec de vastes étendues d'herbe. Ici, on a un parc qui est vraiment étroit avec des rails et un sentier où on peut courir ou se promener. Et vraiment, cette idée que les rails restent visibles joue beaucoup dans la forme de ce parc.
Alors, si j'essaye de résumer nos propos, Corten, on a un parc municipal aménagé. Qui dit municipal dit des horaires d'ouverture et de fermeture de ce parc, des panneaux d'indication et des bancs, des poubelles, etc. On a donc un parc municipal aménagé et doublement valorisé à la fois pour son histoire, mais aussi pour sa biodiversité, ce que nous allons voir avec Salomé.
Mais avant d'aborder les questions de biodiversité, revenons d'abord sur la dimension historique de cet espace de la Petite Ceinture. Pourquoi il y a des rails en fait, Alexandre ?
Et parce que Corten, ce tronçon fait partie de la voie ferrée de 32 km entourant Paris. Progressivement ouverte à partir de 1852, elle a connu des usages multiples.
D'abord, deux fonctions initiales. Le trafic de marchandises, il s'agissait d'assurer la redistribution des marchandises arrivant à Paris avec une exigence d'efficacité et de vitesse.
Ensuite, une fonction militaire. La Petite Ceinture a été conçue comme une infrastructure logistique à l'intérieur des fortifications de Thiers qui ont été construites en 1840.
Il faut bien avoir à l'esprit que ces deux fonctions initiales s'inscrivent dans un contexte plus large de grands travaux nationaux dans la deuxième moitié du 19e siècle.
Dès 1867, la petite ceinture est ouverte aux voyageurs. Elle connaît alors une fréquentation moyenne de 25 millions de voyageurs par an, avec un pic en 1900. 39 millions de voyageurs ont emprunté la petite ceinture pour se rendre à l'exposition universelle de Paris.
Le 19 juillet 1900, la ligne est ouverte aux voyageurs. L'engouement pour le métropolitain dépasse toutes les prévisions. De juillet à décembre 1900, 18 millions de voyageurs l'empruntent.
La petite ceinture était donc très fréquentée, mais avec la concurrence du métropolitain, elle a été progressivement délaissée par les voyageurs. Et en 1934, elle est fermée aux voyageurs.
La petite ceinture est alors utilisée par les compagnies de chemin de fer, qui en deviennent les concessionnaires.
Mais elle perd progressivement sa fonction industrielle. Elle est désormais toujours utilisée, mais dans un but essentiellement logistique.
En effet, les rails sont toujours raccordés au réseau RER, et ce dans le nord-ouest et le sud-ouest de Paris.
Si l'on revient sur la partie de la petite ceinture qui nous intéresse, dans le 15e arrondissement, il faut savoir que la SNCF est toujours propriétaire, ce qui est visible dans l'affichage, mais aussi dans les différents accords qu'elle passe avec la mairie de Paris depuis 2013.
Mais avant de revenir sur ces accords, sur leur contenu et sur ce que cela implique en termes d'aménagement, et pour bien comprendre tous les enjeux de cet espace, revenons avec Salomé sur la question de la biodiversité.
À quoi ça sert ?
Ça veut dire quoi ça ?
Pourquoi c'est comme ça ?
C'est où ?
C'est qui lui ?
Un jour, une question. C'est quoi la biodiversité ? La biodiversité, c'est tout ce qui fait que la nature est surprenante, variée et créative. On peut parler de biodiversité dans une espèce. Par exemple, il y a plein de sortes de chats, de tailles et de couleurs différentes. Ou dans un lieu où vivent plusieurs espèces différentes. Plus il y a d'espèces qui y vivent, plus la biodiversité y est grande.
Il faut le préserver le plus possible. Hein, on entend les petits oiseaux.
Sommes-nous à Paris ? Oui,
je le confirme.
Bonjour Salomé.
Bonjour.
Bonjour Salomé.
Bonjour.
Alors, dans quelle mesure ici on est dans un espace vert qui est particulier, notamment par rapport aux deux grands parcs qui l'entourent, donc le parc André Citroën et le parc Georges Brassens ?
Alors en fait, ce qui fait la spécificité de cet endroit, c'est qu'il n'est pas du tout aménagé pour la détente et le loisir comme pourrait l'être le parc Georges Brassens et le parc André Citroën. Ici, on est vraiment sur un espace qui est là pour constituer un corridor écologique, donc pour assurer la connexion entre des réservoirs de biodiversité, pour offrir des conditions favorables au développement et au déplacement des espèces. Pour ça, il y a des aménagements qui ont été mis en place, notamment le fait qu'il n'y a pas de luminaire, ce qui permet à la faune et la flore de ne pas subir de perturbations lumineuses autres que la variation naturelle de la lumière. Et on note également qu'il y a assez peu d'aménagements, à part des bancs, mais qui s'intègrent assez bien dans l'espace, qui sont souvent en bois. Il y a également une grande diversité d'habitats, donc des prairies, des talus boisés, des arbres morts. Ce sont des habitats qui sont souvent des signes d'une biodiversité qui est assez riche. Et du coup, il y a une gestion de l'espace qui est adaptée pour favoriser cette biodiversité. Il y a des barrières sur certains tronçons qui empêchent l'accès des piétons au bas-côté. Et les talus sont interdits au public. Et ça, c'est signalé par des panneaux pour rendre l'information accessible aux promeneurs.
Effectivement, on remarque la présence de nombreux panneaux d'indication. Et ça, tout le long du tronçon.
Alors effectivement, il y a des panneaux d'information qui sont généraux à chaque entrée de la petite ceinture, enfin de ce tronçon, qui sont là pour revenir d'abord sur l'histoire de cet espace, mais qui insistent beaucoup quand même sur la perspective écologique. Sur la forme, on retrouve en fait des techniques de communication qui sont assez classiques. Donc au niveau des choix des couleurs, on reste sur des nuances de vert et de brun qui sont là pour rappeler les couleurs de la nature. Au niveau des illustrations, le choix a été fait d'utiliser des dessins à la place des photos. Donc c'est pour représenter des caractéristiques des espèces qui pourraient être moins visibles à l'œil nu, mais du coup ça facilite l'identification des espèces par les promeneurs. Et c'est quand même un peu plus ludique que pourraient l'être des photos. On observe également des encadrés verts sur ces panneaux qui sont là pour faire ressortir des informations importantes ou plus parlantes pour les promeneurs. Et ils sont particulièrement visibles car ils rompent avec la ligne visuelle des panneaux en règle générale. Et enfin, pour finir sur la communication, sur chaque panneau, on retrouve le logo de la mairie de Paris pour mettre en évidence l'émetteur de l'information. Et à chaque fois, ce logo, il est accompagné du site internet de la ville et du numéro d'information pour que les promeneurs qui souhaiteraient avoir plus d'informations puissent avoir accès à d'autres références.
Donc là, tu as parlé de toutes les stratégies de communication qui étaient développées autour de ce tronçon de la Petite Ceinture. Mais est-ce qu'il s'agit que de com, ou est-ce qu'il y a vraiment une biodiversité qu'on peut observer ici ?
Alors en fait, on peut dire que cet espace, il est vraiment géré pour favoriser la présence de la biodiversité, et ça témoigne d'un nouveau type de gestion qui se répand de plus en plus, qui répond à la formule « entretenir autant que nécessaire, mais aussi peu que possible ». Et du coup, ici, c'est vraiment indéniable qu'il y a une volonté de préserver la biodiversité et la mettre en valeur. En effet, il y a certains habitats qui ne sont pas forcément esthétiques, comme les talus boisés ou les arbres morts, mais qui sont là quand même, et du coup, on peut supposer que ce n'est pas là pour le bien-être des promeneurs spécifiquement, mais pour... mettre en place des habitats qui sont favorables à la biodiversité. Dans cette même idée que c'est un espace qui est là pour générer la biodiversité, on peut également parler du fait qu'il y a des aménagements qui sont restrictifs pour les promeneurs et les piétons, comme l'interdiction d'aller sur les talus ou l'absence de luminaire qui implique que le parc doit fermer assez tôt en soirée pendant l'hiver. Et donc ça montre qu'il y a un véritable intérêt pour la préservation d'une faune et d'une flore assez riche dans cet espace.
Donc en résumé, est-ce qu'il s'agit d'un véritable espace protégé ?
Non, alors il ne s'agit pas d'un espace protégé comme on pourrait en avoir dans les parcs naturels nationaux ou dans les réserves naturelles. Ici, il n'y a aucune réglementation en ce qui concerne la biodiversité. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est un espace qui est créé pour être à la fois donc un réservoir de biodiversité, mais qui est aussi censé être un espace de promenade et de détente pour les riverains. Et c'est perceptible par le fait que c'est un espace qui est aussi aménagé pour la promenade. Il y a des chemins qui sont prévus à cet effet, et il y a une véritable séparation entre les espaces qui sont dédiés à la nature et les espaces qui sont dédiés aux promeneurs, qui est matérialisée par des barrières physiques. Et on peut également mentionner le fait que, mine de rien, c'est un espace qui est ancré dans un espace urbain qui est assez bruyant, ce qui est probablement pas bénéfique à la biodiversité, alors même que les panneaux de sensibilisation vantent l'intérêt de, je cite, « l'abri du regard et des bruits de la ville pour les oiseaux », alors que manifestement, selon les heures de la journée, c'est absolument pas vrai.
Donc on a bien différents usages sur cette petite ceinture, donc tout ce qui est la nature, mais aussi donc ces rails-là qui restent très importants. On va revenir maintenant sur ça avec Alexandre, voir pourquoi il y a encore ces rails.
Je chante soir et matin, oh je chante sur mon chemin. Je chante, je vais le faire mon château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau, je cours, je...
Pourquoi y a-t-il encore des rails apparents ? Pourquoi n'ont-ils pas été tout simplement recouverts ?
Comme on l'a mentionné, en fait, on est ici encore sur une propriété de la SNCF. On a donc eu une série d'accords entre la SNCF et la mairie de Paris qui encadrent l'aménagement de ce segment. Ces accords prévoient notamment qu'à tout moment, les rails peuvent être utilisés comme voie de transport pour permettre la circulation des trains.
Par là.
Par là plutôt.
On va commencer à fermer.
D'accord.
Ok. Ok, ouais.
Alors, parce que ça commence à fermer, il vaut mieux préparer dès maintenant.
D'accord, merci.
Après cette interruption qui nous rappelle que le parc est certes un espace naturel, mais il n'en reste pas moins municipal et donc soumis à des règles strictes, notamment des règles de fermeture, je me propose de reprendre. Donc, en effet, le 19 décembre 2016, la ville de Paris et la SNCF ont signé une convention de superposition d'affectation. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Et concrètement, ça veut dire que cet espace de la Petite Ceinture est soumis à une double réglementation. La réglementation des espaces ferroviaires, mais aussi la réglementation des parcs et des espaces naturels parisiens. Et c'est là qu'on a vraiment une superposition d'affectation et de réglementation.
La conséquence, c'est que tous les aménagements doivent préserver la continuité de la Petite Ceinture et respecter la condition de réversibilité. C'est-à-dire que les installations doivent être facilement déboulonnées, il n'y a aucun aménagement lourd et les rails sont entretenus. C'est-à-dire que tout est fait pour que les trains puissent encore éventuellement passer.
Donc à partir de cet accord institutionnel, on a une opposition de représentation entre d'une part la mairie de Paris et d'autre part les associations de sauvegarde de la Petite Ceinture.
La mairie de Paris promeut une installation la plus légère possible pour permettre la balade et ainsi rendre cet espace aux Parisiens, en le rendant précisément accessible. Anne Hidalgo en parle même d'en faire un GR, c'est-à-dire un sentier de randonnée en vue des JO de 2024.
De l'autre côté, les associations rappellent que la mairie de Paris n'est que le locataire et le gérant de cet espace, que la SNCF reste propriétaire. Mais cela est propre à ce segment parce qu'il permet l'accès à la station électrique de Vanves qui alimente tout Montparnasse et donc la circulation doit être possible à tout moment.
Il y a donc toujours la revendication d'un statut ferroviaire. Ces associations considèrent la petite ceinture comme un lieu de mémoire ferroviaire. Elles souhaitent ainsi, je cite, « maintenir dégagé de toute végétation le gabarit ferroviaire autour des voies ».
On a donc un jeu d'acteurs et de représentations dans lequel on a une possibilité institutionnelle qui est exploitée à fond par les associations de sauvegarde du caractère ferroviaire de la petite ceinture.
Ce segment de la petite ceinture dans le 15e arrondissement est un parc municipal aménagé qui met en avant la préservation de la nature, mais qui reste une propriété de la SNCF, comme éventuellement le support d'un transport ferroviaire.
Et c'est bien spécifique à ce segment. Sur les 32 km de la petite ceinture tout autour de Paris, on a des appropriations qui sont très variées et très différentes de celles qu'on a étudiées aujourd'hui. On a par exemple la recyclerie à la porte de Clignancourt, ou encore le segment de la petite ceinture dans le 16e arrondissement, entre la porte d'Auteuil et Ranelagh.
Là-bas, les rails ne sont même plus visibles. Il s'agit désormais exclusivement d'un chemin de nature.
Merci de nous avoir écoutés, merci à Salomé pour son expertise environnementale et son alacrité.
Et rendez-vous sur notre page Radio Campus et sur tous les réseaux sociaux.